question du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde, avec Dailymotion, tous les mercredis à 19h20. Jean-François Aquili.
Notre invité ce mercredi est Daniel Cohn-Bendit. Nous évoquerons avec le leader d'Europe Écologie le sommet sur le climat qui s'ouvre à Copenhague. Faut-il déjà parler d'échec ? Il sera également question de la menace verte sur le PS aux prochaines élections régionales. Rendez-vous avec Daniel Cohn-Bendit dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20. France Inter.
La différence.
15h04, je vous retrouve à 16h pour un autre point sur l'actualité. Tout de suite, Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Voilà, je voudrais dire un grand merci aux Suisses. Je suis vraiment contente. Vous avez bien eu raison. Au moins, cette saloperie ne défigura pas votre paysage. Franchement, ça n'a rien d'européen et ça prouve une seule chose, c'est que la Suisse est un véritable État démocratique. On n'a pas changé la Constitution demain parce que le résultat au référendum ne plaît pas aux Arabes. C'est formidable. Bravo les Suisses.
Oui, bonjour Daniel, c'est Élise. Je t'appelle de Suisse. Je suis catastrophée, scandalisée, révoltée par les votations de ce week-end. 57,5% des Suisses sont des cons. Mais des vrais racistes cons.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. C'est le repère de la Chaux-de-Fonds en Suisse. Nous en Suisse, on veut pas de minarets, on veut construire des banques. On veut de l'argent sale, de l'argent de la drogue, de la prostitution, du trafic d'armes. Alors, à l'occasion de notre prochaine réunion, nous évoquerons donc des minarets non, de l'argent sale oui. En Suisse, on a des valeurs, on a de la morale. C'était Frédéric Damien.
Salut Daniel. Et voilà, c'est reparti. Les banques ont des difficultés. Elles ont prêté des milliards de dollars à Dubai World, une société de l'émirat de Dubaï, pour réaliser des projets pharaoniques, des tours de plusieurs centaines de mètres de haut, des shopping centers démesurés, des golfs, des pistes de ski en plein désert, une île prestigieuse en forme de palmier avec de somptueux immeubles les pieds dans l'eau. Et voilà que Dubai World ne va pas pouvoir honorer son échéance de décembre. La crise est passée par là. Il n'y a plus personne pour acheter ces programmes au prix exorbitant. Et voilà que les banques vont devoir provisionner leurs créances impayées de Dubaï. Et voilà que tous ces capitaux immobilisés à Dubaï vont manquer pour le financement de l'économie réelle, celle qui est, dans leur pays d'origine, le fruit du commerce entre les entreprises et les particuliers. Et voilà qu'une fois encore, les banquiers se sont mis le doigt dans l'œil. Ils ont oublié de s'appliquer à eux-mêmes les principes de prudence qu'ils obligent leurs agences de quartier à observer quand il s'agit de prêter aux entreprises et aux particuliers. Et voilà qu'ils vont peut-être, espérons que non, mais voilà qu'ils vont peut-être encore frapper à la porte des contribuables, indirectement, en s'adressant aux États pour amortir le coût. Nicolas Sarkozy l'a clamé, ce capitalisme-là, c'est fini. Le G20 s'est réuni pour dire la même chose. Mais qu'a-t-on décidé pour mettre un terme à cette gabegie ? A-t-on décidé de séparer la banque de détail, celle qui prête aux entreprises et aux particuliers, de la banque d'investissement, celle qui réalise de grandes opérations internationales ? Non, tout ça reste bien imbriqué, bien opaque. A-t-on décidé que les États auraient un droit de regard dans les affaires des banques ? A-t-on nommé des administrateurs de l'État ? Surtout pas. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais demander à ma banque quel est son niveau d'engagement sur Dubaï. Et si je vois que son niveau d'engagement pourrait l'amener à distribuer moins de crédits aux entreprises et aux particuliers d'ici, je vais en chercher une qui aura été plus raisonnable. Voilà. Salut Daniel, c'était la patte.
Merci pour tous ces messages. Beaucoup de messages, évidemment, sur la faillite, entre guillemets, de Dubaï. Et ici, je peux vous dire que ça intéresse beaucoup de monde, parce que nous sommes au Kerala. Kerala, un état au sud de l'Inde, d'où 500 000 hommes, jeunes hommes, et des femmes aussi, vont travailler dans les Émirats. 500 000, ils représentent 40 à 50% des revenus de l'État du Kerala. C'est dire si cette faillite redoutée et annoncée inquiète les habitants de cet État de l'Inde. Magnifique État, chanté de tous les côtés pour sa sérénité, sa beauté, la douceur de son climat. Par exemple, dans les backwaters. Les backwaters sont d'immenses canaux qui font l'enchantement des touristes, l'enchantement des guides touristiques qui oublient complètement de parler de la pollution. La pollution créée par le tourisme lui-même et les habitants des petites îles formées entre ces canaux, eh bien, manifestent, protestent. Alors, évidemment, ils vivent en partie du tourisme. Et c'est toute la contradiction, mais ils se laissent pas faire, amis écolos, vous devriez les soutenir, j'espère que vous le faites. On continue donc ce voyage. Aujourd'hui, on est à Cochin. Là, non plus, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on dit sur les guides touristiques en matière de sérénité, de bruit, de fureur. Mais c'est passionnant et nous commençons un grand reportage dont je ne vous dis rien tant il est secret. Un reportage de 1993 aujourd'hui. 1993, je vous rappelle, si vous l'ignoriez, que cette année, la Bastille suisse a 20 ans et ce n'est qu'un début. Et c'est l'occasion de revenir sur quelques moments forts, vous allez voir, de cette modeste et géniale émission à la morgue aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Jean-Luc des Hautes-Alpes. Le premier café repère du Champsaur, une petite vallée entre Gap et Grenoble, se tiendra au bar L'Aquilon à Saint-Bonnet le mardi 1er décembre, donc à partir de 20h30. Le thème du premier café repère, ce sera un café repère pour quoi faire, chercher des idées de débat, d'animation, etc. Voilà, venez tous avec ce que vous avez dans la tête et on en discutera. Merci.
Les îles d'Aubenas, L'Argentière, Vallon-Pont-d'Arc et Ruyonce s'équipent de systèmes de vidéosurveillance coûteux et liberticides. Rendez-vous donc mardi 1er décembre 2009 à 18h, espace Combeguerre à Aubenas. Pour nous, pour nos enfants, ne laissons pas s'installer une société de surveillance totale. On compte sur vous.
Vous voyez ce morceau de drap là, c'est vraiment horrible quand on voit ça, parce que cet homme-là, c'était une histoire sentimentale. Il a fait une dernière fois l'amour avec la personne qu'il aimait et il savait qu'il ne la reverrait jamais. Bon, des différends entre eux. Et puis, on l'a retrouvé pendu avec ce morceau de drap qui maintenant n'a plus l'odeur du parfum de la dame. Mais moi, quand j'ai reçu le corps et le morceau de drap, il y avait l'odeur du parfum dessus.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Un corps se prépare entre 2 et 3 heures. Alors évidemment, c'est pas en 5 minutes qu'on peut préparer un corps, hein. Moi, je mets au congélateur, malheureusement, des gens que je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire des gens qui sont putréfiés, qui sont soit après immersion de 3 ou 6 mois. Là, je suis bien obligé, bien sûr, de le mettre au congélateur. Mais enfin, c'est très, très rare. Hein.
Vous l'avez croisé dans la rue, au resto ou dans le parking. Rien de spécial. Brun, la quarantaine, souriant, une femme, des enfants, un homme charmant. Pourtant, regardez ses mains. Par les mains de cet homme sont passés 21 000 cadavres. 21 000 environ. Environ 1000 chaque année. 4, 5 par jour ou par nuit, ça dépend. On ne peut pas savoir, on ne peut pas prévoir. Chacun son tour. Un jour, ce sera peut-être moi ou vous. Si vous êtes dans la région de Tours, dans votre petite auto, si vous vous plantez, si vous vous viandez, il se peut très bien que vous alliez tout droit à la morgue de l'hôpital de Tours. Je ne vous le souhaite pas, mais en tout cas, là, vous serez entre de bonnes mains. Celles de Jean Blondeau, employé au funérarium de l'hôpital Trousseau à Tours. Et c'est là que je vous emmène aujourd'hui à la morgue. Attention, vous n'êtes pas obligé de me suivre. personnes sensibles s'abstenir dans le vestibule de la mort, ce manque de savoir-vivre.
Je suis mort. Je suis bien mort. S'il vous plaît, ne pleurez pas sur mon sort. Corbillard, je la sens près de moi, son rimel fout le camp. Qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Toi qui ne venais jamais à mes rendez-vous de mon vivant. Tu ne te promenais jamais en auto seul avec moi. Aujourd'hui c'est fête, nous voilà réunis dans le même convoi. Tu m'as dit non toute ma vie, le jour de ma mort tu me dis oui. L'amour auquel je ne croyais pas est né le jour de mon trépas. Qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Quelles sont belles tes fleurs, tu en as eu au moins pour 15 000 francs. Toi qui dédaignais tous les bouquets de roses que je t'offrais. Aujourd'hui c'est toi qui m'apportes une couronne signée regret. Moi j'ai pleuré toute ma vie, le jour de ma mort tu pleures aussi. Dommage que tu me dises je t'aime dans le langage des chrysanthèmes. Qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Moi qui voulais me foutre à l'eau chaque fois que tu me disais non. Je ne pouvais pas supporter l'idée de vivre sans toi. Mais je me disais, fais confiance au destin, ton heure viendra. Fallait que je défonce un platane pour que tu veuilles bien devenir ma femme. Tu vas voir comme ce sera coquin, tous les jours ce sera la Toussaint. Je la sens près de moi. Si j'avais su, je serais mort avant.
Préparation des corps, dépôt de fleurs, mise en bière. Il y a deux sorties quand on est dans un hôpital, soit la convalescence, soit le deuxième sous-sol, c'est-à-dire la morgue, c'est-à-dire le funérarium. Et c'est vers cette impasse que je vous conduis aujourd'hui dans un hôpital qui ressemble à n'importe quel hôpital en France, sauf que là, il y a un employé, celui qui a la responsabilité de ce funérarium, Jean Blondeau, est un homme tout à fait singulier, tout à fait zélé, tout à fait unique en son genre. Et c'est avec lui qu'on va passer cette heure. On entre dans cette deuxième sous-sol donc de l'hôpital Trousseau. On est obligé de frapper à la porte parce que la porte est fermée à clé. Pourquoi est-ce qu'il s'enferme à clé? Parce qu'il a peur d'être dérangé dans son travail. Il a plutôt peur que les visiteurs soient dérangés par son travail.
Les familles sont reçues ici.
Et là, c'est la tente famille.
Et vous savez, les salles d'attente, c'est très peu, ça a à peu près 2 ou 3 minutes, le temps que l'on mette en place le défunt. Et j'aime pas trop faire attendre les familles parce que bon, ça ne se fait pas dans ces moments-là. Mmh. Et là, vous avez donc les salles de présentation Alors, les salles sont tout à fait neutres, c'est-à-dire parce qu'on reçoit toutes les nationalités et surtout toutes les religions. Donc, on peut pas se permettre d'avoir un salon catholique, orthodoxe ou islamique ou tout.
Enfin, quand même, il y a un petit décor.
Oui, il y a un petit décor.
Il y a un petit décor de fleurs. Ben, il y a que des fleurs. Et ça va pour tout le monde, ça, les fleurs.
Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Non, ce qui serait bien, ça serait comme dans certains funérariums privés, ceux qui ont, évidemment... Parce qu'ici, c'était... En fait, ce n'est pas un funérarium, c'est une salle mortuaire hospitalière. Hein. Bon, nous, on a débaptisé avec le directeur de l'hôpital, avec son accord, bien sûr, on a débaptisé le nom salle mortuaire, morgue, en fait, en mettant funérarium pour que ça fasse un peu plus moderne et un peu plus...
Parce que morgue, ça, c'est connoté...
Voilà, triste. Voilà, c'est ça. Et comme nous sommes un hôpital quand même ultra moderne et tout neuf depuis à peu près 13 ans, en laissant cette vieille coutume morgue, bon, voilà.
C'est donc... vous qui avez choisi le décor? Non, c'était comme
Toute
ça.
La décoration a été faite par moi, tout entièrement.
Vous êtes ici depuis combien de temps, alors?
13 ans.
Quel est votre job, au juste, votre...
Agent d'amphithéâtre.
Agent d'amphithéâtre, et largement. Mais comment on devient agent d'amphithéâtre?
Je pense que de toute façon, ça, c'est une vocation. Hein. On ne peut pas devenir agent d'amphithéâtre comme ça du jour au lendemain.
C'est-à-dire que petit, une vocation, que... ça veut dire que petit, vous aviez envie de faire ça, d'être agent d'amphithéâtre?
Non, pas petit. C'est-à-dire que bon, j'ai eu une misère dans ma jeunesse. J'ai pas eu de parents. J'ai été élevé par une famille très gentille, très. Bon, aucun problème, mais j'ai quand même été très très malheureux. Et je suis donc d'une famille de 7 enfants, de 7 nationalités différentes. Et j'ai beaucoup souffert. Et puis, quand je vois aujourd'hui les gens qui mangent pas, moi, ça m'est arrivé aussi.
7 nationalités, ça veut dire la même maman, le même, non?
Comme... La même maman, mais 7 pères différents. De 7 nationalités différentes.
Ah. Voilà. Et ça fait des frères et des sœurs, cela dit?
Ça fait des demi-frères et des demi-sœurs, oui.
Que vous voyez toujours?
Que je vois de temps en temps, parce que bon, ils sont tous un peu dispatchinés, puis il y en a qui sont morts, et puis il y en a, on n'a pas les mêmes idées, parce qu'eux, ils ont été adoptés, et moi, je suis le seul enfant à avoir été abandonné. Alors, voilà. Donc, il y a une différence déjà entre nous.
C'est un statut, ça, abandonné?
Oui. Oui, j'étais abandonné dès ma naissance, en 1948. Je suis né en 48, dans Paris 18e, rue Carpeau, exactement, et j'étais abandonné là. Voilà, clair et net. J'ai vu ma mère 5 minutes dans ma vie, c'est tout.
La nuit n'est jamais complète, il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée, il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie... La vie à se partager. C'est un petit poème au mur de Paul Éluard. Là, là, c'est la salle des petits animaux, là, pour attendre. Là, il y a des petits animaux, là-bas, c'est la salle des fleurs. Et puis là, il y a un autre petit poème. La vie est dure pour les jeunes et les moins jeunes, pour les jeunes particulièrement, car il est difficile de s'accrocher à cette montagne si cruelle, si dure. La vie. Ah, c'est tout son univers, à lui. Ouais, ouais. Vous avez un client là qui arrive, non?
Non, 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 absolument pas. D'abord, premièrement, c'est pas des clients. Moi, je suis pas pompe funèbre et je suis pas du tout. J'ai horreur d'abord de ça, d'employer le terme client.
Vous dites des patients des...
Non, ce sont des défunts pour moi, c'est tout. Bah, il y a rien d'autre à dire. Donc, ce sont des gens qui sont effectivement au départ des clients pour l'hôpital, si on peut appeler ça des clients pour l'hôpital. Mais pour moi, c'est fini. C'est pas des clients, c'est des défunts. Donc, c'est tout à fait différent pour moi. C'est tout. D'abord, moi, que j'ai 50 décès par mois ou j'en ai 70. De toute façon, je gagnerai le même prix. Alors donc, ça n'a rien à voir. Et moi, je ne suis pas un entrepreneur. Hein.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes trouvé donc en présence d'un défunt? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous pouvez me raconter?
Oui, parce que quand je suis donc rentré à l'hôpital, j'ai commencé comme brancardier et ambulancier. Mais enfin, j'étais brancardier, en fait. Et donc, on emmenait les morts directement à la morgue. On les prenait dans les services, on les emmenait à la morgue. Et quand je suis rentré dans cette morgue, donc qui était à cette époque-là à Bretonneau, bon, il y avait plein de choses qui m'intéressaient parce que, bon, je voyais qu'il y avait des choses à faire. Il y avait des morts qu'on maquillait, qu'on préparait et tout ça. Et je me suis dit, moi, j'aimerais bien en faire autant.
Pourquoi?
Parce que c'est très simple. C'est-à-dire que la chaleur que vous n'avez pas reçue, vous avez envie de la donner. C'est-à-dire que, bon, c'est une forme de la recevoir, c'est tout. Alors c'est très dur parce que d'un côté, moi en fait je donne et c'est vrai que j'ai pas reçu beaucoup dans ma vie, dans ma jeunesse disons, de chaleur. Et en fait c'est ça, c'est que moi je veux donner au maximum pour que les gens soient heureux sur la Terre. Bon, c'est tout à fait différent. De l'autre côté, vous avez tout le système des frigos, je vais vous montrer, la conservation des corps, en fait. Et puis, il y a la préparation des corps. On va passer à côté.
Vous allez montrer ça.
Ouais.
Dans un tabou, dans un lieu ultime, la morgue, le funérarium d'un hôpital. En écoutant ça, je sais ce que vous faites. Vous oscillez entre deux attitudes. La déprime la plus totale, la plus profonde, innommable, littéralement innommable, ou bien alors le fou rire. Et nous ne faisons que par ces deux attitudes incarner, si j'ose dire, représenter la façon dont on vit la mort, dont on vit le deuil. Il y a un phénomène qui se passe dans notre société, ici, dans notre pays, par exemple, c'est que la mort est gommée. Il n'y a plus de moins en moins de rites, de rituels de mort. Vous savez que c'est un phénomène extraordinaire. Alors que naguère, les petits corbillards d'antan qu'évoquait Brassens, c'était un spectacle courant. Ailleurs, dans le monde, pour un deuil, il y a des pleureuses. Et c'est extraordinaire de penser qu'aujourd'hui, il y a deux façons de procéder. Il y a des endroits où on fait semblant, je pense par exemple aux pleureuses, où on fait semblant de souffrir, alors que nous faisons, nous, semblant de ne pas souffrir. Et c'est un peu ça qui se passe dans ce lieu où nous conduit Jean Blondeau. Là, on est passé dans une autre salle, une zone interdite au public, un endroit où le public n'entre pas. Et je pense que le public n'a absolument pas envie d'entrer là.
C'est incroyable, c'est un crâne carbonisé d'une femme de 32 ans suite à un incendie dans sa caravane. C'est un tout petit crâne qui est complètement carbonisé. Je crois qu'il y a le corps à côté. Là. Et le cerveau d'un enfant de 2 mois et demi, autopsie pratiquée. C'est incroyable tout ce qu'il a là-dedans. C'est extraordinaire. Là, les photos, j'ose même pas aller les voir.
Là, on tombe dans le sujet qui est intéressant maintenant. C'est des photos que j'ai faite après un accident. C'est-à-dire que les personnes sont arrivées ici accidentées, vous voyez dans l'état où ils sont arrivés.
Alors je vais essayer d'écrire, c'est absolument épouvantable. C'est des gens qui sont éclatés, carbonisés, absolument méconnaissables, défigurés. Il n'y a pas trop de vocabulaire pour décrire ce genre de choses. Et c'est dans cet état-là, évidemment, que les gens arrivent ici à la morgue, voilà. Enfin, au funérarium.
Voilà. Et donc notre travail après consiste donc à les nettoyer, à récupérer le plus de morceaux qu'on nous a ramenés, bien sûr, et donc de reconstituer en fait le défunt pour représenter à la famille un défunt à peu près, disons, correct. Hein. Et il y en a, bon, les carbonisés, on peut absolument rien faire. Les personnes qui passent sous un train, c'est pareil, on peut rien faire. Les gens en décomposition, c'est exactement pareil. Vous en voyez là, ou sur la photo, vous voyez plein de parasites, hein. Ou des asticots, plus exactement. Donc là, on ne peut absolument rien faire. Mais vous voyez, cet enfant qui avait donc 2 ans, son père l'a vu dans cet état-là, sur les lieux de l'accident.
Oh.
Et il l'a revu le lendemain, refait comme ça, vous voyez. C'est-à-dire il a retrouvé son enfant avant l'accident.
Alors, ça, suicide sur la voie ferrée, accident de la voie publique, suicide par arme à feu entre les yeux, et l'âge des défunts... C'est très, très, très morbide. Il faut vraiment avoir votre santé, votre vocation pour arriver à assurer.
Une personne qui est... après immersion de 3 mois, vous voyez, dans l'état. Alors là, vous avez simplement que la vue pour vous aujourd'hui. Mais nous, on a l'odeur. Et croyez-moi, c'est horrible. Parce que cette odeur-là, vous l'avez, si ça vous arrive à 9h le matin, ce corps, le soir, quand vous rentrez chez vous, même à 22h, même en prenant une douche, même en vous lavant les cheveux, vous avez intérêt à vous laver les cheveux 2 fois, parce que je peux vous dire que dans les cheveux, c'est inimaginable, l'odeur reste. Et moi, j'ai mes amis qui me disent, ah, dis donc, toi, tu sens le cadavre aujourd'hui.
Voilà ce qu'on pouvait entendre dans la basse où j'y suis en janvier 1993. Je vous rappelle, si vous l'ignoriez, chers auditeurs modestes et géniaux, que cette année, c'est les 20 ans de la basse où j'y suis, 1989-2009, et que nous en profitons pour revenir en arrière, retrouver, dégoter sous les fagots, au grenier de la basse où j'y suis, quelques numéros un peu particuliers.
C'est incroyable, hein, ce squelette-là.
Il a été retrouvé dans une propriété. C'est un type qui a construit sa maison il y a à peu près une quinzaine d'années. Et puis, au fond de son jardin, il a voulu faire la plantation d'arbres. Et en faisant des trous, il est tombé sur le squelette. Alors, bon, il a appelé tout de suite la gendarmerie locale. Et puis, on a récupéré. Alors, il n'y a pas tout. Il en manque. Hein. Il manque les bras, les avant-bras, il manque ça. Alors on ne sait pas, ça peut être... Bon, on pense que c'est un squelette qui est à peu près dans les 60 à 80 ans. Hein. Donc ça peut dater du temps où les gens étaient enterrés un petit peu n'importe où. Les gens du voyage, très souvent, ils s'enterraient eux-mêmes n'importe où. Ou ça peut être un règlement de compte, on ne peut pas savoir. Hein. À cette époque-là, c'était comme...
C'est un homme ou une femme, on sait ? C'est une femme ? À cause de quoi ?
Le bassin.
La largeur du bassin.
La largeur du bassin, oui. Alors, il a une petite particularité... Et vous savez, ça c'est très important, c'est quand on fait découverte de cadavres non identifiés, on observe tout, on regarde tout. Et là, vous allez voir cette particularité qu'il a. Penchez-vous et regardez dans la glace.
Il y a une petite glace qui est placée sous le mâchoire inférieure. Et si je regarde dans la glace, eh ben... Ah, il y a un trou dans le palais.
Il y a un trou dans... Il y a une dent. Il y a une dent. Ah. Donc ça, si cette personne, à cette époque-là, avait été chez un dentiste, on aurait peut-être pu l'identifier.
Alors là, qu'est-ce que vous avez exposé ? Des équerres, des vis, des...
Non, oula. Là, ce sont Comme les médecins viennent pratiquer des autopsies ici, et que moi je suis leur assistant... Donc j'ai fait un petit panneau, bien sûr, où il y a des prothèses, de toutes sortes de prothèses. Et ce sont des prothèses qui n'ont jamais servi, bien sûr, ce sont des prothèses qui ont été mises là en exposition. Alors ce que vous découvrez en bas, là par contre, ce sont des cordes, enfin toutes sortes de morceaux qui ont servi à des pendus. Vous avez tel que ce morceau de drap. Alors là, c'est la police, quand le corps est découvert, la police ramène donc les morceaux donc de ficelle ou de drap ou tout.
Alors,
ça.
Alors, corde d'un pendu, homme de 23 ans, suicide par pendaison, là, il y a une photo. Oui. Mais dis donc, là, c'est des câbles électriques qui sont très très fins, là.
Oui, c'est très fin, ouais.
Et ça marche.
Mais ce n'est même pas un câble électrique, c'est un câble de fil à linge, exactement. Et c'est vrai, ça, c'est inimaginable ce que ça peut supporter comme poids. Vous voyez ce morceau de drap, là, c'est vraiment horrible quand on voit ça, parce que cet homme-là, c'était une histoire sentimentale. Il a fait une dernière fois l'amour avec la personne qu'il aimait, et il savait qu'il ne la reverrait jamais, bon, des différends entre eux. Et puis, on l'a retrouvé pendu avec ce morceau de drap, qui maintenant n'a plus l'odeur du parfum de la dame, mais moi, quand j'ai reçu le corps et le morceau de drap, il y avait l'odeur du parfum dessus. Je peux vous dire que ça vous prend les tripes, hein, comme on dit vulgairement. Hein. Il y a vraiment de toutes sortes de méthodes. Hein. Les gens vont chercher... Quand ils ont envie de se suicider, ils vont trouver. Hein. Vous avez ce câble électrique, là. Vous avez cette ceinture, là, qui sert, je crois, pour les déménageurs, pour porter des meubles. Vous voyez, ça, c'est un type qui a été dans la marine, ça se voit. Il y a le nœud du marin.
Ah oui, oui, oui.
Hein. On reconnaît, vous voyez. Malheureusement, il y a de plus en plus de suicides, c'est vrai.
C'est vrai, ça ?
Oui.
C'est la boîte crânienne d'une femme de 39 ans après avoir été concassée puis ensuite passée au four à micro-ondes. Oh là là, mais c'est pas vrai. C'est le bout du rouleau. C'est après l'article de la mort, la morgue, le funérarium d'un hôpital. D'un hôpital, celui de Tours, l'hôpital Trousseau, avec ce préposé étonnant, Jean Blondeau, qui a accepté, tout à fait exceptionnellement, de nous faire visiter cet endroit, par définition, tabou. Là, on entre dans le Saint des Saints, la chambre froide, derrière la porte. C'est évidemment une grande salle, des carrelages partout, comme on l'imagine. Et devant nous, des portes de frigo, 33 portes de frigo.
Alors, il y a 33 frigos qui sont réglés entre 0 et plus 5 degrés. Parce que moi, j'ai horreur du système de congélation. D'abord, à tout point de vue. Premièrement, faire congeler quelqu'un, on a l'impression qu'on fait congeler son beefsteak. Deuxièmement, c'est quand même inhumain de mettre quelqu'un au congélateur et après de le mettre en bière ou de le mettre présenté et puis il y a de la glace tout autour. Et on peut très bien éviter, hein, avec une préparation, bien sûr, il faut mettre le temps. Un corps se prépare entre 2 et 3 heures. Alors évidemment, c'est pas en 5 minutes qu'on peut préparer un corps. Hein. Donc pour certaines personnes qui font ce métier, c'est vite fait et puis ils mettent ça au congélateur. Bon, moi j'ai horreur de ça. Moi je mets au congélateur malheureusement des gens que je ne peux pas faire autrement, c'est-à-dire des gens qui sont putréfiés, qui sont soit après immersion de 3 ou 6 mois, là je suis bien obligé bien sûr, de le mettre au congélateur. Mais enfin, c'est très très rare. Hein. Voilà. Donc les corps sont conservés, comme je disais, entre 0 et 5 degrés. Vous allez en voir un. Voilà, je vais donc ouvrir.
Mmh. Il ouvre la porte, c'est comme la porte d'un frigo, et à l'intérieur, il y a effectivement un défunt, comme il dit, qui est en train de tirer.
Cette personne a 88 ans. Et est-ce que, pour vous, vous lui donnez 88 ans ? Après la préparation qu'on a faite.
J'arrive pas déjà à réaliser que c'est une... J'arrive pas très bien à réaliser que je suis en train de voir un cadavre. Alors ça, c'est quelqu'un que vous avez préparé,
oui.
Comme vous dites. C'est
oui.
Ça, préparé ?
Oui, préparation.
Combien de temps ?
Là, j'ai mis 2h30. Parce que cette personne, quand même, avait été opérée. Donc, on reprend les sutures du chirurgien. Parce qu'un chirurgien fait les sutures point rapproché. Et nous, on fait un surgé. Et après, on fait donc un pansement spécial, tout à fait différent du chirurgien, bien sûr, pour pas que ça fuit. On emploie des colles spéciales. Et puis, bon, il faut faire les bandages au niveau des bras quand il y a eu des perfusions de posée, parce que si on fait pas de bandage compressif, ça continue à suinter, même s'il n'y a plus de circulation de sang. Et puis, il faut boucher les orifices, le fondement, bien sûr, le vagin, les narines, la bouche. Dans la bouche et chaque narine, on met à peu près entre 80 et 1,20 m de coton. C'est impressionnant, mais c'est vrai. On a des coquilles au niveau des yeux pour éviter que les yeux donc se creusent. Et puis nous mettons aussi des petits bouchons, des petits cônes dans les oreilles pour éviter que ça se vide, que le corps se vide. Et puis nous attachons la bouche tout en la laissant légèrement libre parce que les familles, nous on ne connaît pas bien sûr le défunt, comment il était de son vivant. Et la famille très souvent nous dit « Ah, il n'a pas la bouche pincée, il n'a pas la bouche comme ça ». Alors ça nous permet de refaire la bouche. Donc on l'attache juste ce qu'il faut. Après on fait un petit maquillage du ton de la personne, parce que ça fait moins cadavérique bien sûr. Et très léger. Bon, les gens qui veulent plus de maquillage, à ce moment-là, on fait plus, mais en principe, tout le monde est maquillé identiquement. Hein. La coiffure, bien sûr. Ça, c'est très difficile pour nous, la coiffure, parce qu'on ne sait pas comment la personne a été coiffée. Les cheveux en arrière, les cheveux légèrement devant, tout ça. Alors, on coiffe, bon, au départ, on regarde un petit peu la personne, comment les cheveux y vont, dans quel sens ils vont. Mais si c'est une personne qui est hospitalisée depuis 15 jours, 3 semaines, très souvent, le pli a été pris, parce que quand on est couché, bien sûr, les cheveux prennent un autre pli. Et à ce moment-là, on peigne, et puis on attend la famille pour leur demander comment ils se peignaient. Et puis très souvent, ils nous disent oui, c'était ça. On arrive quand même à... Moi, j'avoue, c'est vrai que mon métier de peintre décorateur m'a beaucoup aidé. En plus, j'ai fait beaucoup de stages chez des amis esthéticiennes, chez des amis coiffeurs et tout. Et ça m'aide beaucoup, parce que je continue toujours. Ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de voir comment la personne était. Et dans les accidentés que vous avez vus de l'autre côté sur les photos, des gens qui sont totalement défigurés, qui n'ont plus d'oreilles, qui n'ont plus de nez, qui n'ont plus de bouche. Bon, je passe des fois 8 heures, 10 heures sur le corps. Mais je peux vous dire que je me trompe rarement. La personne est pratiquement identique à quand elle était vivante. Et bon, ça c'est mon don, ça, c'est comme ça.
Voilà. Ah, il ouvre un autre. Wow. Il y a une autre personne. Ça, c'est quoi?
Alors là, vous avez une personne qui a donné son corps à la médecine et qui a exactement la même préparation que l'autre défunt. Parce que très souvent, j'ai vu dans les morgues hospitalières des agents d'amphithéâtre dire de toute façon, ce corps-là, il va à la fac, on le prépare pas de problème, il va être disséqué. Je suis désolé, la famille peut... Nous, d'abord, on demande toujours à la famille dans combien de temps ils veulent qu'on remette le corps à la fac, si c'est dans 3 jours ou dans 8 jours, parce que, bon, il y a des gens qui veulent venir veiller les corps et puis que toute la famille voie une dernière fois le défunt. Alors, moi, je fais la même préparation, même si c'est un don de corps. Voilà. Alors là, voilà. Là, c'est le congélateur. Le congélateur, donc j'ai une personne qui est donc là depuis le 15-8-92. Pourquoi est-elle encore là, n'est pas enterrée? Tout simplement parce que le concubin veut enterrer, bien sûr, sa concubine, mais malheureusement, il est hospitalisé, il a un problème cardiaque important, les chirurgiens ont déjà fait 2 opérations, et bon, on ne sait pas ce que ça va devenir pour lui, mais il m'a demandé, il m'a supplié de garder le corps, de ne pas le faire enterrer, parce que on aurait pu le faire enterrer avec l'accord de la mairie du domicile du défunt, et puis, parce qu'elle n'a pas de famille, et puis avec, bien sûr, les prélèvements que les pompes funèbres ont droit sur les comptes, mais moi, j'ai donné ma parole à ce monsieur de garder le corps. Alors, elle est au congélateur depuis donc le 15-8. Chez elle, il y a donc à peu près 48 heures. Et donc, nous allons pratiquer une autopsie médico-légale sous le... c'est le juge, en fait, qui a demandé une autopsie médico-légale parce que découverte de cadavre à domicile avec la porte qui n'était pas verrouillée. Donc, le corps est en décomposition. Et là, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment affreux, notre métier, et que... Et c'est quand même assez difficile. Et surtout, ce qui est difficile, c'est la famille qui demande à voir le corps. Et ça, c'est très difficile parce que, bon, leur présenter le corps dans l'état qu'il est, c'est un petit peu inhumain. Mais on peut pas leur interdire non plus parce que, bon, c'est quand même leur défunt, ça leur appartient, c'est normal. Mmh. Alors, même en accord avec le juge, qui, des fois, le juge est d'accord avec nous en disant, il faudrait mettre les scellés, pas montrer le corps, mais sur le plan humanitaire, on peut pas. D'ailleurs, moi, tant pis, je vais jusqu'au bout, je montre le corps. Mais je peux vous dire que la famille s'accroche et moi aussi. Alors là, vous allez voir. Surtout, malheureusement, vous allez sentir.
Voilà.
Bon, on va faire très vite, comme ça, c'est important. Ouais.
Je l'ouvre la housse en plastique. Et. Alors, on aperçoit le corps.
Alors, si vous approchez, vous allez...
Ouais, c'est pas la peine, j'ai pas envie d'approcher. Ouais.
Mm-hmm.
Alors, vous voyez, lundi matin, lundi matin à 7h, nous allons pratiquer l'autopsie sur cette femme avec le médecin légiste, en présence du juge d'instruction et puis de l'identité judiciaire pour faire les photos, de l'inspecteur de police qui s'est occupé de l'affaire. Alors, ce que je veux dire, c'est que si vous avez passé un petit week-end tranquille, vous avez bien mangé avec vos amis, et vous avez été à la campagne, mais il faut mieux parce que lundi matin à 7h, bah, vous penserez à nous. Hein. On n'aura pas la vue, on aura surtout les odeurs. Et pour nous, c'est ce qui est important, c'est surtout les odeurs. Ça, c'est atroce.
Ça commence pas, Thibaut, comment ça ?
Vous sentez un peu ? Imaginez quand vous ouvrez le corps.
Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, je suis indiscret, mais les... vous avez des casquettes, des chapeaux, là. Où est-ce que vous avez trouvé ça?
Ah, ça, c'est quand il y a des... quand on fait nos petites soirées en dehors de l'hôpital. Notre petite vie privée. Alors, bon, ça, c'est une casquette d'un gars de pompe funèbre. Là, c'est un chapeau melon, enfin, bref.
Ouais. Bon. C'est gay, quoi, quand même. Une petite touche de gaieté. Mais vous faites pas de la taxidermie quand même en plus, non?
Si.
Ah, voilà, c'est ça.
Si, ça c'est personnel.
Ah oui, oui, un petit peu de temps en temps quand même. Là. C'est un renard, ça, hein?
Mais je fais beaucoup de choses.
Ben, visiblement.
Je fais de la décoration chez moi, parce que comme je suis ancien fan décorateur, j'ai un appartement, ça fait 18 ans que j'ai acheté, que j'ai l'appartement, il n'est pas encore fini. And it would be too late for even your good common sense to start working against me. I put a spell on you because you're mine.
Hey, please, don't.
You stop the things you do. What the?
Vous emmenez vos enfants ici?
Mon fils, lui, a toujours eu un recul. Et c'est tout à fait normal. Donc moi, il est rentré, quand j'étais à la morgue de Bretonneau, il est rentré une fois et c'est tout. Bon, il aimait pas, j'ai jamais forcé, c'est normal. Hein. Mais quant à ma fille, dès l'âge de 2 ans, elle était continuellement avec moi. J'avais mon ancien patron, le professeur, qui faisait les autopsies. Donc moi, j'ai appris à faire les autopsies, c'est lui qui m'a appris en fait. Et elle me disait toujours, Jean, votre fille est toujours avec vous. Je dis, ben oui, elle veut toujours être avec moi. Alors, elle se promenait en travers toutes les tables d'autopsie.
À quel âge?
Elle avait 2 ans. Et là, aujourd'hui, elle a 21 ans. Et je peux vous dire qu'encore, elle sait suturer. Ça ne la gêne pas. Elle sait habiller un mort. Elle sait garnir un mort.
Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie?
Elle est vendeuse.
Affaire de sensibilité, c'est toujours extraordinaire de penser à ça, à la faculté que nous avons tous de nous désensibiliser partiellement. C'est le cas évidemment de tous les gens qui sont dans le corps médical. C'est aussi le cas, par exemple, des prostituées. Et ouais, ça existe. Et c'est une faculté tout à fait extraordinaire qui devient tout à fait inquiétante quand c'est le cas de politiques ou de militaires qui se désensibilisent et qui de cette façon peuvent devenir très dangereux. Là, c'est pas le cas du tout, évidemment. On continue la visite, étrange visite de cette morgue funérarium de l'hôpital de Tours avec Jean Blondeau.
Là, c'est une salle d'autopsie. Diaphragme, thymus, cœur, poumon droit, poumon gauche, rate, foie, rein droit, rein gauche, cerveau. Et voilà le travail. Là, c'est pareil, allez. Vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. L'humour carabin, hein, ça marche, l'humour carabin. Vous n'avez pas l'instruction, vous vous sentez inutile et les femmes vous repoussent. Alors n'hésitez plus, engagez-vous dans la police. C'est sympa, est-ce que vous avez déjà décortiqué des flics ici? Oui, sans doute.
Oui, ça peut arriver. Malheureusement, quand même. Malheureusement.
Et c'est sur cette table qu'on coupe les gens en morceaux?
Eh oui. Malheureusement, oui. Donc, vous avez tous les outils qui nous servent.
Ah oui, c'est pas mal, ça, les outils. Les couteaux, les pinces, les ciseaux. C'est vraiment des couteaux de cuisine, hein, ça, c'est très clair. En dessous, il y a des louches. À quoi ça sert, les louches, dites-donc?
C'est pour mesurer, prélever le sang, l'urine. Le marteau, c'est pour déboîter avec la calotte crânienne quand on l'acier.
Cisaille, bocaux.
Les bocaux, c'est pour quand on fait les prélèvements et qu'ils sont envoyés dans les laboratoires pour les analyses, soit d'urine, soit de tissu musculaire.
Il y a une balance, là, très précise.
Qui précise le poids des organes. Car tous les organes sont pesés, sont mesurés, pesés, et diagnostiqué après par les laboratoires.
En fait, vous passez votre vie ici, c'est un sacerdoce, quoi. C'est devenu vraiment un sacerdoce.
Ouais. Moyenne par semaine, moyenne de travail, ça varie entre 40 heures, logique, mais la moyenne, c'est 50-55 heures par semaine.
Et vous traitez combien de défunts, comme vous dites, par an, par exemple?
750, en moyenne.
Et dans votre vie, jusque-là, vous avez...
Je suis rendu à 21 000.
21 000.
Étant donné qu'à Bretonneau, nous en avions 2200. Alors, il y a une partie de l'hôpital qui décède. Donc, comme l'hôpital Trousseau, il y a à peu près 530-550 décès par an de l'hôpital, et vous avez le reste, ce sont des gens qui décèdent soit sur la voie publique, ce qu'on appelle des corps déposés, directs, et donc soit les crimes, soit les suicides et tout, qui arrivent directement à la morgue, sans passer...
Mais dites-moi, il n'y a pas un moment quand même où vous en avez marre de ce truc, où ça vous dégoûte, ce boulot dégueulasse, là, c'est vraiment terrible, c'est morbidissime.
Non, non, absolument pas, parce que de toute façon, je travaille d'abord, premièrement, pour les familles. Bon, le défunt, c'est le cadavre, comme vous dites, c'est le cadavre. Bon, lui, de toute façon, qu'on passe 3 heures ou 5 heures, de toute façon, ça sera toujours la même chose. Mais une famille, c'est important. Parce qu'une famille, c'est quand même...
Les familles, c'est un peu votre famille.
Ah voilà, exactement, voilà.
Est-ce que ça vous arrive de... Est-ce que ça vous est arrivé d'entretenir, de créer des liens, des amitiés avec des familles de défunts comme ça? Beaucoup?
Beaucoup, beaucoup.
Qui sont toujours des amis?
Qui sont des amis et qui resteront des amis. Et je suis même... Je vous donne un exemple, j'ai reçu à peu près 40 nationalités. Je suis invité, je mens pas, à peu près dans 18 pays du monde. Je suis invité au Portugal, en Algérie, partout. Mais bon, je me vois pas du tout à aller chez les gens. Même en France, je suis invité chez énormément de gens. Et je me vois pas arriver, sonner à la porte. Bonjour, je suis Monsieur Blondeau. Oui, vous vous rappelez de moi, bien sûr. Oui, bien sûr. Non. Déjà, quand je rencontre les gens dans Tours, dès l'instant que je sors du funérarium, tout le monde me connaît. Bonjour, ça va, Monsieur Blondeau? Mais vous, comment ça va? Bon, ça va. Vous savez, on arrive à se remonter un peu. Bon. C'est continuellement ça, vous voyez. Ils ont les larmes aux yeux qui arrivent. C'est normal. Comprends. Déjà, moi, je les évite, hein, parce que bon, je regarde les néons, ou alors je regarde carrément à droite ou à gauche, parce que bon, je sais ce qui va se passer quand je vois les gens. Et en fait, c'est ça ce qui est le plus dur. Mais j'ai énormément de relations dues à ce métier, c'est vrai. Ça va du clochard. J'ai des clochards à Tours qui m'ont connu parce qu'ils ont eu d'autres clochards qui sont morts. Et ces gens-là, quand je les vois, bon, je discute avec eux. Bon, ça m'est arrivé, et j'ai pas honte de le dire, de boire un coup avec un clochard. Bon, je rencontre aussi le milieu toxico, où ils en ont qui décèdent, parce que malheureusement, bon, rien qu'à nous ici, l'année dernière, en 92, on a eu quand même 8 toxicos dans la ville de Tours qui sont décédés. C'est important pour une petite ville de 130 000 habitants. Hein.
Et quand je reçois leurs amis qui viennent voir leur copain ou leur copine qui est morte suite de drogue, quand je les revois en ville, bon, systématiquement, ils viennent me dire bonjour. Bon, moi, je peux pas, c'est pas parce que c'est toxico que j'ai pas le droit de leur dire bonjour, donc je leur dis bonjour.
Quel était le moment le plus dur jusque-là de votre carrière ici?
Ah, le moment le plus dur, il y a eu plusieurs moments, mais bon, surtout les enfants, parce que ça, c'est horrible, horrible, les enfants. Quand vous recevez une famille entière avec les enfants, ça, c'est ce qui est le plus dur pour nous, hein. Et moi, ce qui a été le plus dur, c'est malheureusement, à chaque fois, j'ai eu des amis, des copines, qui sont malheureusement, ou des copains qui sont décédés. Et là, bon, on est là pour en parler. Et il y a 3 semaines, bon, il y a eu un grave accident qui s'est passé dans une petite ville à côté de Tours, là. Et il y a eu donc l'homme et la femme qui sont décédés suite à un accident de la voie publique, qui ont été carbonisés tous les deux. Lui, je ne connaissais pas, mais elle, je la connaissais bien, c'était une amie intime. Et je préfère arrêter là parce que c'est tout. Mmh. On y va ?
Ici, vous recevez des familles qui sont dans une... très affectées, évidemment. Est-ce que vous avez vu des comportements vraiment bizarres de familles ou extraordinaires ?
Ah oui,
comment ça se passe ?
Ah oui, j'ai vu des comportements assez bizarres des familles, oui, c'est vrai. Ce qui me surprend de temps en temps, c'est surtout les insultes. Les gens qui insultent leur mort. La femme qui traite son mari de tous les noms, et même devant sa famille, et même devant tous les employés de pompes funèbres qui sont là au moment de la mise en bière, ou vice-versa, où l'homme le fait à sa femme. Alors là, j'avoue, je suis surpris.
Mais jusqu'à taper le défunt là.
Pas taper, mais lui tirer les cheveux, lui décoller pratiquement la tête sur le brancard, il traitait tous les noms.
Ah, c'est incroyable, ça.
Oui. Ça m'arrive d'intervenir et de dire, bon, écoutez, nous sommes dans un endroit de recueillement, il y a d'autres familles à côté qui entendent, donc je vous prie de...
Mais est-ce que vous faites peur aux gens ?
Tout à fait. Il y a des gens qui ont peur de moi parce que, bon, je traîne la mort avec moi. Des mauvais esprits sont dans moi, les mauvaises ondes négatives. J'avais mes enfants qui étaient à l'école privée. Ils ont toujours été à l'école privée. Et j'avais la mère supérieure qui était une femme adorable. Enfin, je pense qu'elle doit être encore adorable. J'espère qu'elle n'est pas morte. Et elle me disait toujours, « Monsieur Blondeau, je ne veux pas vous serrer la main. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le métier que vous faites, Ça me fait mal et je peux pas vous serrer la main. » Et elle me serrait jamais la main. J'ai été délégué de parents d'élèves, j'ai été président du bureau des parents d'élèves et tout après, mais elle me serrait pas la main. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a en dehors d'ici, de l'hôpital, enfin même dans l'hôpital, quand ils viennent des familles, il y a des familles qui me serrent pas la main. Et donc, si vous avez 20 personnes, il y en a 10 qui le feront, ou 12, 15, et vous en aurez une partie qui le fera pas. Et après, quand je discute avec elles me disent. Je ne pourrais jamais... Moi, j'ai... Bon, je vais aller plus loin, ça va être marrant ce que je vais dire, mais vous avez les femmes. Bon, c'est vrai que... Bon, j'adore les femmes, les belles femmes surtout, et j'en ai qui me disent, de toute façon, jamais je pourrais faire quelque chose avec toi, aussi bien de t'embrasser ou de faire l'amour, je pourrais pas, parce que, vu le métier que tu fais. Alors, c'est vrai, parce que... Bon,
par contre, est-ce que ça vous est arrivé de consoler des veuves ?
Ah, il veut pas le dire.
Il veut pas le dire. Bon. Non, on ne saura pas plus, je laisse libre cours à vos fantasmes nécrophiliques. Il y a des sergents Bertrand qui se perdent et beaucoup, beaucoup d'histoires. Vous pouvez en imaginer autant que vous voulez. Eh bien, je crois bien que la réalité dépassera dans tous les cas votre imagination. On ne peut pas tout vous dire ni tout vous montrer. Petite conclusion, Jean Blondeau.
Comment vous voulez mourir, vous ?
Alors moi, j'aimerais bien mourir vite et sans souffrir. Mais je pense que ça, c'est 100% des gens. Mourir jeune ou vieux, je m'en fous complètement. Parce que de toute façon, on est de passage sur la Terre. Et puis, vous savez, on n'est rien du tout, hein. On est trois numéros sur la Terre. Le premier, c'est le numéro d'acte de naissance. Le deuxième, c'est le numéro de sécurité sociale. Le troisième, c'est le numéro d'acte de décès. Voilà. Alors, quand je vois tous ces bandes de cons sur la Terre qui s'entretuent, qui viennent passer 8 jours avec moi, et croyez-moi qu'il y en a certains qui vont certainement réfléchir.
Dans le cadre de la rétrospective des 20 ans de Là-bas si j'y suis, c'était une rediffusion d'un reportage tourné en janvier 1993. Merci à Michel Bedos qui avait réalisé cette émission. Le conseil de Là-bas si j'y suis, c'est le spectacle Il était une fois mais pas deux, interprété à partir des textes de Brigitte Fontaine par Sylvie Gravagna et Fabrice Viera. C'est à la Java, 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris, ce lundi soir à 21h, mais aussi les mardis 1er, 8 et 15 décembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission, Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Guillaume Lacroux et Arnaud Caillet. Réalisation, Coyenne Guyenne et Raphaël Mouterde. Assistante, Agnès Le Botte. Chef du répondeur, Catherine Pinto. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Le Nautique, Salon Nautique de Paris du 5 au 13 décembre. Popeye, la mascotte du Nautique, vous donne rendez-vous et vous invite à découvrir toutes les nouveautés, voiliers, bateaux à moteur et équipements. Venez vivre au rythme des animations, cuisine à bord, l'espace découverte, le livre du Nautique, le showroom équipement, l'arbre de Noël. Tous au Nautique du 5 au 13 décembre à Paris, Porte de Versailles. Tout le programme sur salonnautiqueparis.com.
Ici, chez TGV, pour faire mincir nos prix, on les laisse transpirer plusieurs jours dans des boîtes à vapeur.
Oh, mais ça va pas, non ?
Si, et vous me remercierez avec 60% en moins.
Oh, on voit bien que c'est pas toi qui... mais ça va pas !
Les tarifs TGV Proms n'ont jamais été aussi minces. Profitez de billets à moins 40, moins 50 ou moins 60% jusqu'au 8 décembre. TGV, plus de vie dans votre vie.
Offre soumise à conditions, également disponible sur Théos, Lunéa et Intercité.
SNCF.
Il est 16h sur France Inter. Vous retrouvez Angélique Bouin pour les informations.
C'est un appel sans précédent que lance l'ONU en direction des pays riches. Un appel aux dons pour venir en aide aux 48 millions d'habitants en détresse de 25 pays, parmi lesquels on trouve l'Afghanistan, la Somalie, le Soudan ou encore le Kenya. L'ONU dit avoir besoin en urgence de 7 milliards de dollars. Les fonds seront répartis entre 380 organisations. Il s'agit du plus important appel individuel lancé par l'ONU dans le cadre de ce que l'on nomme l'appel humanitaire annuel. Son coordinateur précise que l'on est bien loin des sommes dépensées par les pays riches pour renflouer ou relancer leurs économies frappées par la crise économique. Tristesse et consternation dominent dans les communiqués émis par les organisations musulmanes de France au lendemain du vote des Suisses, vote interdisant la construction de minarets. Pour le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, le résultat de ce scrutin vient nous rappeler une fois de plus que le vivre ensemble n'est jamais définitivement acquis. L'UOIF appelle de son côté les responsables politiques français européens à tout mettre en œuvre pour anéantir, je cite, cette islamophobie grandissante. Il n'est pas question pour les autorités de Dubaï d'éponger les dettes du conglomérat pourtant public Dubai World. Les autorités l'ont précisé ce matin, façon pour elles de tenter d'apaiser les craintes de ceux qui pensent que l'ensemble de l'économie de l'émirat peut vaciller avec cette affaire. Les autorités reconnaissent qu'il s'agit d'une entreprise publique, mais affirment qu'en raison de ses activités risquées, il avait été décidé dès sa création qu'elle ne serait pas garantie. Aux créanciers donc maintenant de se débrouiller, dit en substance un haut responsable qui regrette la confusion faite dans les médias entre Dubai World et le gouvernement. En France, on est toujours sans aucune nouvelle de cette petite fille de 5 ans, mystérieusement disparue en juin dernier à Maubeuge. Sa mère dit l'avoir perdue de vue lors d'une balade dans le centre-ville. Des déclarations qui doivent encore être éclaircies. Selon les enquêteurs, la jeune femme vient d'être placée pour la seconde fois en garde à vue. eBay, pris la main dans le sac, devra payer une amende d'€1,7 million au groupe de luxe LVMH. Le groupe de vente aux enchères sur Internet est condamné par le tribunal de commerce de Paris pour avoir vendu des parfums de façon illicite. eBay avait déjà été condamné pour les mêmes faits en juin 2008 et a donc récidivé. L'Irlande veut participer à la Coupe du monde de football 2010. Elle a fait une demande officielle en ce sens à la Fédération internationale de football, la FIFA, qui en discutera mercredi. La Fédération irlandaise conteste toujours son élimination de la compétition. Élimination, vous le savez, à la faveur d'une faute de main non sifflée du joueur français Thierry Henry. Et puis en sport, toujours en tennis, Serena Williams a été condamnée à payer 175 000 dollars d'amende et à une mise à l'épreuve de 2 ans par la Fédération internationale de tennis. La numéro 1 mondiale avait agressé verbalement une juge de ligne à l'US Open.
Mercredi 2 décembre, à partir de 21h, M en live sur France Inter. Une soirée présentée par Laurent Lavige.
Mathieu Chédide au studio 104 de la Maison de la Radio pour un concert exceptionnel.
Ne soyez pas hystérique, s'il vous plaît.
M en live. Un concert événement à suivre mercredi à partir de 21h.
Est-ce que c'est ça ?
Sur France Inter.
Est-ce que c'est ça ?
Renseignements sur franceinter.com. France Inter. France Inter. La différence.
Il est 16h04, précisément l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons accompagner les 111 ans de la firme Deutsche Grammophon, grande marque de disques. Et à cette occasion, on publie un coffret de 6 CD, un beaucoup plus gros, et puis aussi un livre, des DVD. Et cette firme, pourquoi 111 ans? Pourquoi on a choisi ça? Ben, elle a une ancienneté certaine. Et surtout, les responsables trouvent que les 100 ans n'ont pas été fêtés de manière tout à fait magnifique. Alors, c'est amusant d'aligner les 3-1. Cette Deutsche Grammophon, donc le gramophone allemand, remonte à la naissance de l'enregistrement, puisqu'en juin 1898, la firme a été fondée à Hanovre, en même temps que la première fabrique de disques et de gramophones, les ancêtres de nos tourne-disques, et après évidemment lecteurs en tout genre, CD par exemple. Les directeurs sont Emil Berliner, c'est un inventeur américain malgré son nom, qui veut dire berlinois, et puis il est originaire de Hanovre, et il y a son frère Joseph aussi, leur usine utilise des presses hydrauliques de fabrication américaine pour faire des disques en gomme laque et ça va être une sorte de standard parce que le cylindre inventé par Edison ne s'est pas imposé. Finalement, on va garder le disque est pressé et le siège de la Deutsche Grammophon va avoir sa place à Berlin. On va trouver là, c'est une firme qui va grandir petit à petit, qui va être anglaise, qui va être confisquée par les Allemands après la Première Guerre mondiale, enfin qui a une sorte de destin assez incroyable. Et le premier grand chanteur qu'on va pouvoir entendre sur Deutsche Grammophon, Gesellschaft, la société, ça veut dire, c'est la basse russe Fedor Chaliapin. Ce sera le premier enregistrement de grande réputation qui va être marqué sur le gramophone, qui va venir du gramophone pour sa réputation. Donc, on va les accompagner, on va célébrer tout ça. Voici, par exemple, des artistes fort connus qui ont signé sous le label jaune, Claudio Abbado et le Philharmonique de Vienne, 5e danse hongroise de Johannes Brahms. Thank you. Johannes Brahms, cinquième danse hongroise par Claudio Abbado, qui a signé son contrat chez Deutsche Grammophon en 1967. Ses débuts, il était encore un tout jeune homme. Et il dirigeait là le Philharmonique de Vienne. Et auparavant, on a du mal à le croire, parce que Martha Argerich est toujours pleine d'énergie et de talent. Évidemment, Martha Argerich a signé en 1960 chez Deutsche Grammophon. Ce sera déjà la septième décennie de cette grande firme. Et elle a amené avec elle d'autres pianistes, plein d'autres voyant Martha, se sont dit, après tout, ce serait extraordinaire d'être là aussi. Et donc, il y a des étoiles merveilleuses jusqu'au jeune Rafawa Blechacz qu'on a déjà diffusé avant le week-end, et d'autres comme Pollini, enfin bon, Arturo Benedetti, Michelangeli...